Bonus.
Trax.
Bienvenue dans le podcast du Cadran Shitlist, le podcast qui vous parle du pire de Star Trek. Je suis Guigui Le Goniguec et à l'occasion de la sortie du pas très attendu téléfilm Section 31 avec Michel Yeoh, j'ai décidé de consacrer à peu près autant d'efforts à la préparation de ce podcast qu'il n'a dû en falloir pour le produire. Rien à foutre.
Here's a customer
hoping for a word with you.
Bring him.
What are you doing in my space station?
I'm giving you a chance to get back in on the action on a galactic scale.
What a cute idea. The only way this works is if I know exactly what I'm dealing with.
We're facing a threat unlike anything Starfleet's ever seen.
Billions of lives are at stake. Gather your people. We're gonna need every one of them.
31 is a Black Ops division. Spy work.
It's just a place for people to bend the rules.
Starfleet is here to make sure no one commits murder.
Whatever you believed your mission was, is worse than you thought.
How do we stop it?
We work together. And don't get dead.
I'll try my hardest.
You ready? Let's get messy.
You don't answer her questions directly,
she
will punch you in your face.
What?
You said that she was going to be doing the face punching!
I lied.
You have no idea what you've started.
This is going to be bad.
Survive together.
Working.
Alors pour en parler, je suis bien sûr avec mon équipage d'élite, le vrai, le seul, l'unique, avec notre capitaine Manu. Salut Manu.
Bonsoir à tous.
Avec notre Romulien relou, Romain Brami.
Salut
Romain.
Salut tout le monde.
Avec notre lieutenante Marie-Paul. Salut Marie-Paul.
Salut tout le monde.
Notre lieutenante commandeur Marina. Salut Marina.
Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous.
Tu te demandais si elle avait un autre grade?
J'ai réfléchi pour savoir si je me trompais pas cette fois-ci, et je pense que non, je me suis pas trompé. Et le dernier, c'est notre officier scientifique Romain Nigita. Salut Romain.
Bonjour tout le monde.
Est-ce qu'à un moment Marina elle passe colonel ou pas? Lieutenant-colonel?
Merci,
ça,
merci.
Ça n'existe pas, lieutenant-colonel.
À un moment, Kira elle passe colonel, non?
Ah oui, mais c'est pas pareil, les grades de bajor sont pas pareils. Elle est colonel à la fin, ouais, tout à fait.
D'ailleurs, Guigui, heureusement que l'amiral Manu demande sa promotion.
Capitaine. Ah, c'est que t'essayes de pousser la mienne, c'est ça.
Tu veux quitter la Starfleet pour rejoindre, du coup, la mise de bajor, alors, c'est ça?
Oui, mais je veux une promotion.
Vous êtes bien exigeants tous. Moi, je vous rappelle que je suis le Romulien relou depuis qu'on a commencé le podcast, hein, c'est pas...
Mais techniquement, je suis d'accord avec Marina. Guigui, t'as un podcast, tu devrais être capitaine. Moi, j'ai beaucoup de podcasts, tu devrais être amiral.
C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai, on devrait reconsidérer peut-être les grades, vous avez raison. En tout cas, avant de commencer, je voulais faire un petit point sur le podcast en 2025, parce que finalement, il n'y aura pas beaucoup d'actu sur Star Trek. Il y a Strange New World saison 3 qui va arriver, on ne sait pas quand, sûrement au milieu de l'année. Starfleet Academy, on ne sait pas quand, on ne sait même pas si ça sera vraiment cette année, parce qu'ils sont en train tout juste de terminer la production là maintenant, au moment où on enregistre. Ça sera peut-être en début d'année prochaine, on ne sait pas. Donc en tout cas, il y aura peu de Star Trek. La semaine prochaine, il y a quand même un épisode que j'ai enregistré avec Kelvin Guillaume, donc d'un autre podcast où on joue au script Docteur Holographique. Et surtout, ce qu'on vous propose, qu'on vous prépare avec Marie-Paul, Yasmine, Martin et Cell, une série de podcasts du jeu de rôle qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment sympa. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un petit montage pour créer comme une sorte de petite fiction audio. Hein. Alors, ça reste du jeu de rôle, mais... Voilà, on s'est créé vraiment un petit délire et on proposera ça, j'imagine, au milieu de l'année quand on aura le temps et que j'aurai fini le montage de tous les épisodes. Il y en aura au moins une quinzaine, je pense. Alors donc, on va parler enfin de ce qui nous amène aujourd'hui. Enfin, même si j'ai vraiment pas envie, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment pas envie.
J'ai envie de taper dessus en tout cas.
Disons qu'on a tous et toutes, je pense, dit merde au Dry January pour un, supporter le film et deux, l'oublier.
C'est vrai. Ouais, désolé du coup pour ceux qui le faisaient, c'est vrai que j'imagine qu'il y a dû avoir besoin de remontant, parce que donc on va parler de l'épisode, le téléfilm Section 31,
le
avec
truc.
le truc, quoi.
Bah, techniquement, c'est un pilote, hein, ça se sent. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça sent que c'était prévu comme un pilote. En fait, c'était ce film Section 31, et donc produit par la CBS Studio. C'est créé In and Out et Roddenberry Entertainment avec Alex Kurtzman, Heather Cadine, Roddenberry, Trevor Ross comme producteur exécutif et vraisemblablement comme showrunner s'ils avaient été showrunners, si ça avait été une série télé. Parce que initialement, effectivement, t'as raison, Marie-Paul, c'était conçu comme une série télé. Ça avait été annoncé comme ça en 2019. Et puis finalement, bah, la série elle est entrée en pré-production en janvier 2020, bah, juste pendant le Covid. Et du coup, bah, le tournage devait commencer en mai 2020 pour se poursuivre pendant à peu près 7 mois et que ça devait donc conclure le tournage d'une première saison en novembre et qui aurait dû sortir en 2021. Et sans doute, heureusement, on peut le dire.
Merci. Merci le dieu Koala.
La production a été retardée et, par la pandémie de Covid-19 et du coup, bah, même si après 2020, régulièrement Alex Kurtzman disait que le projet n'était pas annulé, nous on pensait tous que c'était mort et que, bah, on pouvait se dire que c'était fini, quoi. Et les discussions se sont poursuivies et puis finalement, 2023 est tombée l'annonce que ce ne serait pas une série mais un téléfilm simplement, un téléfilm spécial et que ça serait le premier d'une série... peut-être, si jamais ça marchait.
Non, ça va avoir autant d'intérêt que A Star Wars Story, qui aura fait deux films.
Ouais, je pense qu'on peut même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est à peu près certain... Bon, je vais peut-être raconter des conneries, mais très sincèrement, je pense pas. C'est à peu près certain que Michelle Yeoh était sous contrat du fait du travail qu'elle avait fourni sur Strange New World. Sur Discovery. C'est à peu près certain que le projet était plus ou moins enterré comme à ce moment-là. Et il y a eu l'incroyable succès du film dont j'ai oublié le nom et vous allez m'aider.
Everything Everywhere All at Once.
Qui a permis à Michelle Yeoh d'un seul coup d'avoir une période comme elle en avait jamais connue de sa carrière, hein, où elle a eu l'Oscar, elle a eu le Golden Globe et tout ça. Et clairement, les mecs de la Paramount se sont dit non, mais c'est pas possible d'avoir l'actrice numéro 1 du moment, parce que c'est bien redescendu depuis, sous contrat et de pas en profiter pour faire quelque chose. Moi je pense que la seule raison pour laquelle ce téléfilm existe, c'est à cause de Everything Everywhere All at Once, sinon ça se serait jamais fait en fait.
Probable, c'est fort probable.
Et d'ailleurs il se passe un truc à la fin qui te ramène directement à Everything Everywhere All at Once, qui est pas un hasard à mon avis.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je la partage complètement. Et avant vraiment de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que quelqu'un veut nous rappeler ce qu'est la section 31 et aussi pourquoi c'était une mauvaise idée de faire un truc là-dessus ?
La section 31, c'est une section spéciale de Starfleet.
Justement.
Bah,
de rien du tout.
De la Fédération. Bah, ça fait partie de la Fédération, techniquement.
Ouais, de la Fédération, ouais, ça on peut le dire.
Qui est là pour jouer le rôle des forces spéciales qu'ont toutes les autres grandes races de Star Trek et du coup des réseaux d'espions et des réseaux qui sont là pour faire le sale boulot et qui est introduite dans Deep Space Nine, je sais plus quelle saison, 3 ou 4, quelque chose comme ça, il me semble.
La saison 6.
Ah, c'est saison 6 quand même. C'est dans Inquisition en effet, ouais. Dans l'épisode d'Inquisition où Bashir se fait interroger sur un certain nombre de choses parce que son passé n'est pas forcément totalement légal au final. Sa vie n'est pas totalement légale malheureusement pour Bashir. Et on découvre du coup cette section d'espions qui fait le sale boulot et qui plus tard dans Deep Space Nine va dans la guerre contre le Dominion tenter un génocide du Dominion en créant un virus et en injectant un virus chez les Changelings. Malheureusement à l'époque c'était pour moi déjà une mauvaise idée dans Deep Space Nine. Mais ça avait le mérite d'être une section dont la philosophie était opposée par les héros de Deep Space Nine qui se retrouvaient toujours en confrontation avec cette section. Et par la suite, ça a été totalement mal utilisé dès que c'est sorti de la série et c'est devenu un truc un peu tactical d'opération spéciale avec lequel plus grand monde n'a de problème en fait, si ce n'est un peu officiellement, mais les gens se laissent un peu facilement séduire par le concept de la section 31 qu'on peut totalement imaginer être une réaction post 11 septembre, hein, clairement ça a été introduit avant, mais du coup l'impact sur l'univers de Star Trek n'est vraiment arrivé qu'après, quoi.
Et d'ailleurs c'est bien que tu cites le 11 septembre parce que dans Enterprise aussi il y a des épisodes section 31 et qui sont aussi post 11 septembre et
ouais, totalement. Bah, il y a deux saisons de Enterprise qui sont post 11 septembre et ça se sent, oui.
Et donc ça s'ancrait bien dans ce cadre-là, mais même la section 31 à l'époque c'était le début et c'était une autre époque et elle restait secrète et ça restait un truc ambigu qui était contre les valeurs des héros, donc.
Mais en fait, la section 31, ça convenait très bien à Deep Space Nine parce que Deep Space Nine avait des nuances Donc, en fait, rien n'était tout gentil ou tout méchant. Et en fait, introduire une section secrète, c'était peut-être maladroit, comme l'a dit Manu. Peut-être c'était pas vraiment Star Trek. Mais d'un autre côté, s'il y a une série où ça devait être introduit, c'est Deep Space Nine. Par le côté, tous les personnages ont quelque chose à cacher. Il y a toujours des zones d'ombre. Et peut-être que Deep Space Nine était la bonne série. Après, c'est devenu n'importe quoi.
Mais surtout, comme le dit Manu, les héros ne partagent pas du tout la philosophie. Et d'ailleurs, finalement, vont contrecarrer... La section 31 crée de quoi faire un génocide du Dominion pour gagner la guerre. Ça aurait pu se faire comme ça si les héros de Deep Space Nine n'étaient pas intervenus. Et pour niquer complètement le plan de la section 31, au risque de perdre la guerre, d'ailleurs.
Ça serait bien de mettre un spoiler en début de podcast pour celles qui n'ont pas vu Deep Space Nine, qui se font spoiler comme des cochons depuis 5 minutes.
Bon, il y a un truc qui m'a toujours choqué qui m'a choqué dès mon premier visionnage de Deep Space Nine, c'est que la façon dont la section 31 est justifiée du coup dans Deep Space Nine, c'est toutes les autres races ont une section du genre, du coup on peut pas se permettre de pas en avoir. Et je trouve que ça va un peu à l'encontre de l'esprit de ce qu'avait lancé Roddenberry à l'époque, en se disant bah on peut imaginer autre chose justement. Et c'est le moment pour moi où la franchise retombe dans les travers de s'ancrer trop dans l'actualité sans réfléchir à la possibilité d'autre chose pour le futur.
Ouais, mais d'ailleurs même ça c'était pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que, et je pense que c'est là où moi j'ai complètement lâché l'affaire et que dans Deep Space Nine ça passait, et dès qu'ils ont essayé de l'utiliser dans d'autres séries, pour moi j'ai trouvé ça complètement nul. C'est le Talchiar, la section 31, c'est pas juste un service secret, c'est pas le MI5 si tu veux, c'est pas le Talchiar non plus. D'ailleurs on parle dans plusieurs épisodes de Star Trek de Starfleet Intelligence. Il y a un Starfleet Intelligence, on s'en doute bien qu'il y a un Starfleet Intelligence, comme en effet tous les militaires ont un service des renseignements intérieurs, un service des renseignements extérieurs.
Worf en fait partie dans Picard d'ailleurs.
Worf fait partie dans Picard, ce qui semble tout à fait normal pour le coup. Et si tu veux, ce qu'ils voulaient te montrer dans Deep Space Nine, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement caché en fait. C'était vraiment...
Parce que ça va à l'encontre des principes de la Fédération.
Ça va à l'encontre des principes, donc c'est vraiment... voilà, c'est ton livre noir, en fait, la section 31, c'est le...
Bah c'est presque une société secrète.
C'est une société secrète, c'est exactement ça. C'est presque complotiste, dans l'idée, si tu veux. C'est pas la CIA, c'est pas le... C'est pas, tu vois, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est... C'est les Illuminati, si tu veux, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que, dès qu'ils ont commencé à l'utiliser dans d'autres séries, et finalement, tu vois, là, même là, on voit bien que ça va pas. Rachel Garrett, j'avance un peu, mais tu vois, un officier de Starfleet n'a rien à foutre dans la section 31, si tu veux.
Ça
ne fonctionne pas, en fait. Et elle pourrait être dans Starfleet Intelligence. Un personnage comme un Garrett, ou Picard, ou Worf, ou n'importe qui, pourrait rentrer pour faire une mission au sein de Starfleet Intelligence et tout ça. Mais là, ça passe pas, quoi, en fait. Rien que ça, déjà, c'était problématique.
Après, là, ce qu'on voit là, c'est une section 31 avant celle qu'on connaît dans Deep Space Nine. On peut peut-être supposer que le truc a évolué entre-temps.
Oui, mais rien que le nom deviendrait... Tu vois ce que je veux dire, Romain ? Rien que le nom est déjà trop sorti, en fait, oui, si tu veux. C'est pas possible, en fait.
Mais là où je te suis sur ce téléfilm-là, c'est qu'en fait, moi, c'est pas tellement le concept de la section 31 qui me gênait au départ dans Deep Space Nine. C'est juste que ce qu'ils en ont fait dans ce téléfilm-là, c'est pas du tout la section 31. C'est autre chose.
C'est ça.
Pour moi, c'est la même différence qu'entre...
C'est la force Mission Impossible, comme le
sujet. C'est ça. C'est la même différence qu'entre Mission Impossible, la série, et Mission Impossible, les films. Mission Impossible, la série, c'est de la manipulation super discrète. Ils tirent jamais un coup de feu. Juste, ils retournent les gens contre eux-mêmes en leur faisant croire des trucs. Et ça, c'est la manipulation mentale, la section 31, telle qu'elle existait au départ dans Deep Space Nine. Et là, on fait tout péter, comme Tom Cruise qui saute à moto et qui s'accroche à la falaise, quoi.
Oh, c'est un sup.
Mais bon, déjà, ça, c'est problématique.
Mission Impossible dans l'espace, ça marche pas. Hein. Malgré la guest qui fait contrôle, je suis désolé, ça marche pas.
Ça aurait été une très mauvaise idée aussi, mais tu vois, à la limite, la série s'appellerait Starfleet Intelligence ou Starfleet Secret Service. Je trouverais ça tout aussi nul, mais à la limite, ça serait déjà plus en accord avec ce qui est censé être la section 31 initialement, si tu veux.
Bah c'est juste Star Trek The A-Team, en fait. C'est l'agence touriste, t'as Barracuda qui fait tout péter, c'est ça, enfin...
C'est Star Trek Mission Impossible, quoi, vraiment. Pour
ouais, vraiment c'est un copier-coller de Mission Impossible. Jusqu'au scénario avec le MacGuffin et tout,
ouais.
C'est
vraiment...
Le début et la fin, c'est très clair.
Je pense que la référence de Romain Nigita sur l'agence touriste est plus juste. Il y a quelque chose de plus kitsch, plus... parce que Mission Impossible, c'est presque trop noble. Alors que l'agence touriste, c'était clairement...
Il y a un peu des deux en réalité.
Mais dans l'agence touriste, c'est des mecs qui sont recherchés par les autorités, alors que là, ils sont... Enfin, c'est une société... Enfin, c'est un ordre secret des... qui est gouverné quand même par la fédération, quoi, au final. C'est plus le statut de Mission Impossible où maintenant c'est même canonique que c'est des criminels qui ont eu le choix de... C'est la Suicide Squad, quoi. Pareil.
Ah oui, c'est la Suicide Squad, mais vu... Enfin, comme s'il avait adapté par TF1, quoi. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, en fait, en regardant le téléfilm.
Bah non, parce que t'as pas Audrey Fleurot, donc ça peut pas être TF1.
C'est vrai. Bon, alors, du coup, bah, merci pour ce petit point. On va faire aussi un petit point à Philippe Georgiou, qui est donc cette empereur...
Non, on a tous et toutes parlé dans Disco, et tout le monde a écouté les podcasts de Disco, c'est bon.
Moi, je déteste le perso depuis le jour 1, donc s'il vous plaît, respectez ça.
Malgré mon amour pour l'actrice, c'est compliqué.
Ouais, bah moi, pareil, et je regrette toujours... moi, j'adore le premier épisode de Discovery parce qu'elle est capitaine. Et j'aurais adoré avoir une série Star Trek Discovery avec Michel Yeoh, Philippe Georgiou en capitaine, et faire une série entre guillemets classique, normale de Star Trek avec ce casting-là, ça aurait été incroyable.
Ouais, avec la capitaine Georgiou, ouais, mais l'impératrice, c'est autre chose.
Non, avec la capitaine, tout à fait.
Négatif, elle a commis des génocides, c'est une tueuse, enfin non, c'est pas possible. Pas Star Trek.
Ah, puis là, ce qu'il rajoute en backstory, c'est nul.
Oh là là, au secours !
C'est facile, c'est...
On va rentrer directement dans la zone spoiler. Red Alert!
Philippe Georgiou, je vous présente mon équipe. Voici Mel. Zef.
Vous avez l'air d'un véritable couteau suisse.
Non, pardon, désolé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais pas rester là à me faire insulter.
C'est pas de vous dont je parlais, mais de votre imposante armure.
Vous êtes nouvelle, alors je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que quand vous parlez de la super armure, vous parlez de Zef.
Oh.
Notre ami Zef souffre de mécadysmorphie.
Je sais peut-être pas ce que c'est, mais je compte pas non plus laisser passer ça. Je me sens offensé, tu devrais...
Peut-être, mais c'est un fait.
C'est pas un diagnostic, t'es Zef, pas médecin.
Zef, il pas médecin. Sait, d'accord, il sait.
Ok, très bien.
C'est bon.
Il le sait.
D'accord, parlez-moi donc de ce Vulcain.
Personne ne lui a dit. Ceci... Ce corps à qui vous vous adressez, le Vulcain n'est juste qu'une machine. Je suis à l'intérieur. Je le pilote. Je contrôle le corps depuis ma capsule de transport. Elle me permet de me faufiler dans des espaces réduits.
Bien le bonjour. Moi, c'est Fuzz.
Fuzz est un nanoquin. Un vrai bout en train.
Enchanté.
La plupart du temps, il lui arrive d'avoir du mal à gérer sa colère.
T'aurais pu t'arrêter à bout en train, Quasi.
Un déguisement Vulcain plus vrai que nature. Décidément, on trouve vraiment des trucs sympas au marché noir.
Les nanocas sont de vrais charognards. La section a établi le premier contact quand on a découvert une infestation dans un vieux vaisseau.
Quasi.
Oh,
si je viens d'entendre infestation. Une fois de plus, Quasi. Redis charognard aussi pour voir espèce de sac à merde d'anamorphe.
Je m'en suis rendu compte dès que c'est sorti.
Je vais te botter le cul jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais rien de solide qui en sorte.
Fuzz, passe à autre chose.
Super idée, ouais.
Warning. Donc en fait, on a l'ex-empereur, donc Philippa Georgiou, qui rejoint encore donc la division secrète Section 31, qui est chargée de protéger la Fédération Unie des Planètes, malgré elle-même, on peut même le dire, et face au péché de son passé dans un scénario soi-disant écrit par Craig Sweeney, alors que tout le monde a compris que c'était la version miroir de ChatGPT qui s'en était chargée. Alors avant de commencer à vraiment parler du téléfilm, on est d'accord qu'on ne saura jamais pourquoi le gardien de l'éternité, dans la saison 3 de Discovery, l'a arraché à son époque, enfin à l'époque du futur.
Parce que c'est pas la bonne époque.
C'est pas la même époque.
Ça pose un autre problème scénaristique majeur, si vous me le permettez, c'est qu'il y a un autre personnage qui est un contemporain de Georgiou dans le... Il y a un autre personnage qui est un contemporain de Georgiou, donc avec qui elle a grandi et tout ça. C'est d'ailleurs, moi, le seul truc qui est à peu près sauvable dans la série, c'est un peu la naissance du Terran Empire et l'espèce d'Hunger Games qu'ils organisent pour élire leur empereur. Mais bon, whatever, c'est pas très grave.
Et qu'en quand fait, il arrive,
elle
c'est la même
elle est censée être projetée dans le futur. Lui, non. Et pourtant, ils ont quand même le même âge. Donc, tu comprends pas du tout ce qui est arrivé à ce personnage. Est-ce qu'il est aussi allé dans le futur et tout? Ils se sont même pas posé la question du bordel.
Ouais, non, ça n'a pas de sens. Hein.
Oui, c'est vrai, ils se retrouvent à une époque. Alors, l'époque, on ne sait pas exactement quand c'est, mais c'est entre la série classique et la nouvelle génération. Et ça serait vraisemblablement en 2325, un truc comme ça, quoi.
Ouais, mais en fait, on s'en fout complètement de l'époque. Puisque,
c'est ça.
Parce qu'il y a Garrett jeune.
Bah, Rachel Garrett, elle est jeune, là, donc ça peut pas être ça.
Mais au final, ça pourrait se passer n'importe quand. On n'en a rien à secouer, quand même, dans...
Ah oui,
dans le téléfilm.
C'est clair.
Il n'y a aucune référence à la Fédé, tu vois aucun vaisseau.
On en a un peu rien à foutre, c'est vrai. Mais c'est un double trou scénaristique de... Giorgio, elle n'est pas censée pouvoir survivre en dehors d'un truc proche de son époque. Et en effet, l'autre, il a vieilli comme elle, quoi. Donc à moins qu'il soit à l'époque de Discovery, mais il me semble pas.
Non, ils sont pas du tout à l'époque de
Discovery.
Ouais,
non, pas du tout.
Ils sont bien après.
Oui, c'est après, ouais. Enfin, après, avant, enfin, Discovery, début de Discovery.
C'est pas des humains, toi, c'est un peuple genre des Eloriens et qui finalement vivent très longtemps sans vraiment vieillir physiquement. Mais on s'en fout.
Non, mais
quoi.
Même c'est pas ça, c'est que vu qu'ils ont Valdin, ils se sont promenés à peu près. Enfin, je veux dire, Georgiou, elle a pas eu la même destinée. Elle, comme a dit Manu et Romain, elle s'est promenée dans le futur, elle est revenue, ça a été que quelques années pour elle. Et du coup, son ennemi, là, normalement, il devrait avoir, je sais pas, 50 ans de plus. Enfin, c'est bizarre qu'ils aient exactement le même âge.
À minima, 50 ans de plus.
C'est une sacrée coïncidence, quoi.
Si c'est comme un Elorien, comme Gainan, tu y vieillis pas forcément comme vieillirait un humain classique.
Oui,
on sait pas de quelle espèce
ils sont. On sait pas où il est allé.
C'est vrai.
On sait pas où il est allé et qu'est-ce qu'il a fait.
Mais si, ils sont humains. Parce qu'il est de la même planète que Philippa.
Ouais, mais elle vient de la Terre, Philippa, on en est sûr de ça?
Oui, il me semble.
On sait qu'elle est humaine. Au début de Discovery, elle était humaine, on nous avait dit. Donc,
D'accord.
En tout cas, j'ai pas commencé à faire un tour de table pour savoir dans quelles conditions vous avez regardé le film et qu'est-ce que vous avez retiré, si ça vous a plu. Alors, Marie-Paul, qu'est-ce que t'as pensé, en tout cas, de ce téléfilm?
Pas grand-chose, pas du bien. Dans quelles conditions je l'ai regardé? Je l'ai regardé en 3 fois pendant la journée, parce que au bout de 25 minutes, j'avais envie de crever. Le cringeomètre avait explosé au bout de 15 secondes. Non, peut-être pas 15 secondes, un quart d'heure. J'ai dû faire des pauses parce qu'en fait, c'était pas possible, quoi. C'était gênant, c'était long, c'était pas bien, quoi. Et on peut même pas admirer les costumes Balmain et Balenciaga qui ont dû coûter une fortune et qui donc ont coûté tout le budget, je pense, du scénario et des effets spéciaux qui sont nuls. Enfin bref, non. Poubelle, on peut l'oublier, quoi. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, tous les actrices qui, au demeurant, sont pas si mauvais, mais leurs rôles sont tellement mal écrits que, bon, on s'en fout, on n'a aucune empathie. Enfin, voilà, c'est long, quoi. Ça aurait pu être déjà fait en 45 minutes et...
Non, pas fait. Non, c'est ni fait ni à faire.
Non, mais peut-être que ça aurait pu être, tu vois, mais en 45 minutes, pas en 1h35 où t'as juste envie de... Je sais pas, j'ai fait un puzzle en même temps, quoi.
Ouais, bon, moi, pour dire la vérité, j'ai aussi fait en 3 fois parce que j'arrivais pas à supporter plus de 20 minutes. Et bon, j'ai fait un effort quand même, donc j'ai fait 20 minutes, 40 minutes et 20 minutes et environ. Et j'ai bossé en même temps tout pareil. Mais pour moi, la seule façon qui aurait été de faire un film, un truc sur Section 31, c'est de déjà qu'ils aient un truc à dire. Là, clairement, ils n'ont rien à dire, les scénaristes. Ils empilent des scènes et ils mettent des personnages qui gesticulent. Mais en fait, on s'en fout de l'histoire, ça ne raconte rien. Mais donc, bref, pour moi, la seule façon qui aurait été de faire un truc Section 31, c'est en fait, la Section 31, c'est les méchants de l'histoire, et on voit, à la fin, ils perdent, et on voit, en fait, l'histoire à travers leurs yeux. Voilà, ça aurait été un peu... Et qui est un vrai propos, quoi, consistant... Mais là, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien de rien, quoi. Et toi, Romain Brami?
Moi, j'ai remis une partie de ma vie en question, je t'avouerai, qu'en regardant cette série, je me suis dit que... mais ça m'arrive assez souvent en ce moment, mais je me suis dit que tout ce temps que j'avais consacré à cette pop culture qui me trahit tellement en ce moment et qui ne m'apporte tellement plus rien, en fait, mais vraiment plus rien. Et pire, qui m'insulte, en fait. Je me sens de plus... J'ai failli pleurer en le disant. Qui ne respecte plus du tout mon intelligence, en fait. À un point où vraiment, je me sens insulté. Et c'est très différent, si tu veux, de regarder un film pour enfants, par exemple, et de se dire, j'en vois beaucoup, comme les jeunes parents qu'on est, et de se dire, c'est con-con, mais tu te sens pas personnellement insulté. Là, je me sens personnellement insulté, en fait, tellement que c'est nul, en fait, si tu veux. Ta réflexion sur ChatGPT est loin d'être bête, en fait. Parce que c'est... je pense pas du tout que ça soit écrit par une IA, hein, mais c'est tellement un melting pot de trucs que t'as déjà vu, mais même pas 100 fois, de trucs que t'as déjà vu un milliard de milliards de fois, en fait, si tu veux, que tu deviens fou au bout d'un moment. Tu dis, c'est pas possible que des mecs aient été payés à Hollywood, la mecque du cinéma, pour écrire un truc comme ça. En fait, ça te... Vraiment, pour un mec comme moi qui a vraiment consacré une partie de sa vie à la culture pop et à, en particulier à la culture audiovisuelle hollywoodienne, c'est vraiment à pleurer, en fait, si tu veux. Donc, je suis quand même assez énervé. Et j'ai eu des images qui me sont venues pendant le film. Évidemment, j'ai pensé à Rebel Moon. Alors, c'est assez fou, parce que Rebel Moon, c'est quand même un film qui est considéré unanimement comme un navet. Hein. Et moi, je suis vraiment un apologiste de Zack Snyder et tout. Mais Rebel Moon, bon, c'est un ratage complet, si tu veux. Il n'y a même pas de débat. C'est nul, nul à chier, si tu veux. Et là, tu as l'impression que le mec a vu Rebel Moon et il s'est dit... Putain, c'est trop bien. Je vais faire la même chose, mais en pire.
En pire,
en fait, si tu veux. Quoi, tu vois. Mais vraiment, j'ai eu...
Tu me donnes pas envie de voir Rebel Moon.
J'ai vraiment eu cette impression pendant tout le film. C'était fou, quoi. Et puis voilà, quoi. Ça a été vraiment une expérience de... C'est nul, en fait. Mais c'est nul. Je j'ai pas d'autres mots, en fait, si tu veux, quoi. C'est lamentable. En fait.
Tout à fait d'accord. Et les dialogues qui sont censés être drôles, ils sont vraiment affligeants de nullité. C'est assez abyssal. Moi, j'avais l'impression d'être devant. En fait, un de mes péchés mignons, je vais vous le dire, de mes plaisirs coupables, c'est de regarder Les Mystères de l'amour. Parce que je trouve ça vraiment tellement éclaté au sol que je pisse de rire littéralement devant. Alors, pour des scènes qui sont forcément pas écrites pour ça. Et j'ai retrouvé un peu de cette vibe de genre je sors une blague mais qui tombe à plat, écrit par un scénariste qui sait absolument pas ce qu'il fait. Et toi, Manu ?
Ouais. Alors moi, je l'ai vu qu'en deux fois. J'étais meilleur que vous. J'ai tenu, je crois, 39 minutes avant d'aller faire Age of Empires et de revenir finir. C'est compliqué. Alors, pour à leur décharge, on sent que c'est un pilote, mais ils auraient peut-être pu le réadapter un peu plus, parce que du coup, surtout dans les personnages, alors les personnages sont nuls, ce qui est gênant, même pour un pilote. Ils ont pas d'arc, il y a rien, c'est juste une présentation de personnages pour nous les poser pour quelque chose qui ne viendra jamais, et heureusement que ça ne viendra jamais. Mais du coup, il y a personne qui ressort du lot, même Philippa Georgiou, je trouve, elle ne ressort pas du lot. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mettre, imaginez, l'un ou l'une d'entre vous écrivait pour du Star Trek, on le mettrait sur notre CV. Il y a quelqu'un qui va mettre sur son CV qu'il a écrit du Star Trek. Et quand on lui posera la question, il devrait dire « c'était section 31 » et du coup baisser les yeux comme ça, baisser la tête.
Après, on ne sait pas comment la production s'est passée, quelles ont été les décisions finales, etc.
Ouais, mais...
Mais attends, le gars qui a écrit ça, si je ne me trompe pas, c'est
Ils sont deux, je crois.
Qui a beaucoup bossé sur Medium, les 4400 et les trucs comme ça, donc il a d'autres choses à mettre sur son CV. Donc il peut très bien l'oublier.
Ok, bah, tant mieux, mais c'est dommage quand même de passer à côté de cette petite carte à jouer pour dans le futur. Il y a un truc, c'est que ça aurait pu être juste nul, mal écrit ou autre, mais en plus, dans le réel, dans la prod, c'est horrible. C'est tellement kitsch, le point de départ où on te fait le passé de Philippa avec un mode, j'ai l'impression de regarder Dead or Alive, que j'aime beaucoup. Mais les présentations des personnages en début de Dead or Alive, voilà, c'est pas le même genre de film. Mais franchement, c'est vachement mieux. Et Romain, tu disais, que t'as l'habitude de voir des films pour enfants. Bah, moi, cette semaine, j'ai vu Paddington 2 pour Pixinema. Franchement, des personnages 100 fois mieux écrits. Enfin, c'est même pas un film pour enfants, parce que c'est un film un peu pour tout le monde.
C'est hyper bien, Paddington.
C'est hyper bien. T'as beaucoup plus de personnages que dans ce film. Ils sont à peine plus caractérisés. Enfin, ils ont à peine plus de temps d'écran. Mais ils sont caractérisés immédiatement. Les spectateurs, ils comprennent où vont les personnages, qui veulent dire quel est leur intérêt, quelle est leur personnalité propre. Et là... Là, j'ai rien, quoi. Il y a un moment, on n'en a pas parlé, mais il y a un moment, il y a le moment du traître, où il faut trouver le traître.
Ah oui, putain, ah ouais. Oh, c'est gênant. Oh là là.
C'est ouais. Horrible. Et horrible.
Excuse-moi, je reprends la parole, Manu. C'est marrant aussi, ça, je voulais absolument le dire avant d'oublier. J'ai lu un article cette semaine, Romain, je ne sais pas si ça va te parler, où c'était des scénaristes qui travaillent pour Netflix et qui disaient qu'ils en avaient ras-le-cul, le niveau de la création était tombé dans les limbes, et que maintenant...
Oui, leur dit, il faut des dialogues où tout est expliqué pour que les gens qui font autre chose en même temps puissent arriver à suivre.
Exactement. On explique aux scénaristes. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai pas trop...
Il faut penser à ceux qui regardent, qui cuisinent en même temps.
C'est ça. Mais comme il y a des gens qui regardent Netflix en faisant autre chose en même temps, en jouant avec leurs enfants sur leur tablette ou quoi au caisse, il faut expliquer ce que t'es en train de faire.
Mais
et la
raison,
séquence de la trahison, j'ai immédiatement...
C'est horrible.
À ça. La séquence, à partir du moment où le mec ne contrôle pas son corps et qu'ils t'ont expliqué 10 minutes plus tôt que le petit extraterrestre, qui est d'ailleurs une réussite, je trouve, visuelle, mais bon, ça c'est vraiment anecdotique, ils t'ont expliqué qu'ils pouvaient prendre le contrôle. Je veux dire que même même un mec qui a 3 grammes d'alcool comme moi dans le sang au moment où je vous parle, il comprend, il fait la connexion, il fait ah bah
pourtant
oui,
tu refonds les flashbacks quand même à l'écran parce
suicidé,
que
voilà, c'est ça. Et là t'as Giorgio qui fait attends, mais s'il a fait ça, mais dada, mais doudadi, mais dadada, et tu te dis mais c'est affreux quoi, c'est affreux.
Et en plus de ça, tu t'en fous qu'ils meurent tous à ce moment-là. C'est-à-dire,
t'as envie, même
si tu trouvais pas, si le traître était pas évident, s'ils mouraient tous, on s'en fout.
Mais Romain, t'as complètement raison parce que comme on l'a dit, je sais pas si tu l'as dit, mais moi en tout cas, j'ai regardé le téléfilm en travaillant, en faisant autre chose. Donc, effectivement, ça marche. Alors, sauf que la différence, c'est que moi, je me suis mis à faire autre chose parce que c'était nul à chier. Et c'est le processus inverse en fait. C'est complètement aberrant ce truc.
Mais c'était vraiment nul de bout en bout.
Et toi, Marina ?
Alors moi, si vous me posez la question de savoir si j'ai passé un bon moment, si c'était au niveau de Game of Thrones et de toutes les séries que j'adore, eh ben non, c'est une vraie catastrophe. Et ça me donne envie de vous réciter quelque chose qui est beau. Donc j'ai envie de réciter des vers du Herr König de Goethe. Donc, erreitet so spät durch Nacht und Wind.
T'as dit que tu parlais plus en allemand.
Es ist der Vater mit seinem Kind. Et donc, j'ai envie de parler allemand ce soir. Pour vous dire à tel point, oui, je viens de vous réciter du Goethe, parce que j'ai envie de beauté, j'ai envie de poèmes, j'ai envie de me rappeler de ce qui est beau, de séries qui sont bien écrites, et on parle jusqu'à maintenant de choses qui sont très mal écrites, qui sont écrites n'importe comment. Il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des séries qui sont bonnes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé Andor. J'ai trouvé que c'était une série qui résistait à être adulte. J'aime beaucoup Le Mandalorian que j'ai revu récemment parce que Romain avait parlé de pop culture qui le décevait. Et je dois dire que moi, la pop culture...
Elle est bourrée. Hein.
Oui, je suis bourrée, d'accord, parce que j'ai cité du Goethe et j'ai le même taux d'alcool dans le sang que Romain. Voilà, moi, j'ai envie de vous parler en allemand, de vous crier mon amour pour le beau, pour les séries.
Mais nous aussi, on t'aime, Marina. Nous aussi, on t'aime.
Non, mais moi, je peux te faire une psychanalyse de Marina, pourquoi elle a envie de vous parler en allemand ce soir.
T'es trop une troll, Marina.
Parce que les bonnes années de Star Trek, Marina les a vécues en allemand, puisqu'elle regardait TNG et Deep Space Nine sur Satine. Donc, je pense qu'elle est dans le même mood que moi.
Satine.
Et je pense qu'elle est dans le même mood que moi. Elle est en plein... on est en train de reconsidérer nos vies entièrement à cause de ce téléfilm de merde et on réfléchit à tout ce temps qu'on a passé à regarder des trucs en allemand ou à payer trop cher des VHS pour finalement en arriver à là, quoi, en fait. Je suis désolé, hein, c'est super dark.
Je vous aime beaucoup, tous mes chers comparses, mais par contre, ce film est vraiment nul à chier, donc si on peut éviter de faire 3 heures de podcast dessus, ça
j'ai envie de dire qu'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce téléfilm, et c'est la seule chose, c'est qu'en fait, on a parlé de Turkana 4, la planète natale de Tasha Yar.
Désolé. Ah.
Non mais ça, c'est le truc de la réplique de fin pour placer un nom, pour essayer de te raccrocher au truc à la fin. Marina, tu t'es fait avoir par ça.
Franchement, et moi j'ai du mal, parce que généralement, je suis la reine du multitasking, c'est-à-dire que je fais généralement 2 ou 3 choses en même temps. J'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, j'ai la télé allumée, et j'essaie de tout faire en même temps.
Et tu bois.
Et je bois, là, ce soir, pour oublier ce que j'ai vu. En fait, c'est juste pas possible. Parce que quand on voit le niveau qui est produit par HBO, par exemple, je vais faire une digression totale et vous m'aimez pour ça.
Ah, tu viens pas d'en faire 10 déjà ?
Il y a une série qui s'appelle À l'aube de l'Amérique sur Netflix, qui est bien.
Non, il
alors,
paraît
attendez,
que c'est pas bien.
Attendez. Non. Attendez. Marie-Paul, attends. Et en voyant la série, je me suis dit, ok, c'est bien.
Help.
À côté, il y a une série qui s'appelle Deadwood, qui a été produite il y a 20 ou 25 ans par HBO, qui est extraordinaire, un chef-d'œuvre. Et en fait, en voyant la série, je me suis dit, mais voilà, Netflix veut paraître adulte parce que ça tire à tout va, parce que ça viole, parce que ça... Mais ils n'arriveront jamais au niveau de l'écriture de HBO, avec 11 épisodes. Mais une série comme Deadwood, je crois que pour l'instant, ça n'a pas été dépassé, ça n'a pas eu de succès, ça a été supprimé au bout de 3 saisons. Mais quand on voit le niveau d'écriture des séries HBO maintenant, sur Netflix ou sur Paramount ou sur n'importe quelle plateforme, mais on est à milieu.
Regarde Apple TV, s'il y a des trucs bien sur Apple TV.
Parce que c'est pas la volonté de Netflix et des networks de faire ça, en fait. Parce que, enfin, des serveurs de streaming.
Tu as raison. Apple TV, c'est génial. Severance et toutes les séries que je regarde sur cette plateforme. presque toutes. Legacy, enfin le film sur Godzilla avec Kurt Russell et son fils, c'était très bien. Monarch.
C'était très bien.
On revient à Star Trek,
Oui,
amis.
Oui, on revient à Star Trek, quand même.
Désolé pour la digression, mais vous m'aimez pour ça, parce que je digresse régulièrement.
On va te donner des points de gage, hein, à force.
On t'aime pour ça d'habitude, mais là, sur cette série, je crois qu'on n'a pas la patience.
Mets des sous dans la tirelire.
Mais je trouve que cet épisode est mal écrit. On voit venir les twists à des kilomètres. Et Michelle Yeoh est une très grande actrice que j'apprécie beaucoup. Je vous recommande de regarder Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tigre et Dragon, je crois, en français. Elle est exceptionnelle et même dans le James Bond, elle est avec Pierce Brosnan, elle est exceptionnelle. Mais là, c'est pas possible. Dans l'épisode pilote de Discovery, moi, je l'aurais suivi n'importe où. Mais après, c'est pas possible. Là, le téléfilm est mal écrit. Les twists sont prévisibles. On passe pas un bon moment. On a juste envie de faire autre chose.
Il n'y a pas que ça.
Mais c'est parce que on n'est pas du tout dans le même modèle économique et de production que les... C'est même pas les networks, du coup, c'est le câble de l'époque, quoi. Parce que tu parles d'HBO, même les séries de network, pendant longtemps, le but premier, c'est pour les networks de remplir 20-24 slots de semaine par an, quoi, sur un planning de diffusion. Là où le câble, il fallait qu'il rapporte de l'argent, donc il fallait faire de la qualité pour attirer des gens. Aujourd'hui, dans une époque où tout le monde peut accéder à toutes les séries, le but, c'est de capter l'audience. Et du coup, de capitaliser sur des acteurs, sur des franchises, sur des trucs comme ça. Et c'est pas de produire de la qualité. C'est juste de capter l'audience et d'en garder un maximum par rapport aux autres networks. Enfin, aux autres plateformes
c'est
de service.
C'est du court-termisme, on est d'accord. Mais ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Et d'ailleurs, Michelle Yeoh, effectivement, comme le disait Romain tout à l'heure, si le téléfilm a été fait, c'est parce que l'actrice a eu l'Oscar. Et moi, je me suis dit...
c'est de la capitalisation sur les actrices et sur la franchise et sur...
Et moi, je me disais, au moins, j'espère qu'il y aura des bonnes scènes de bagarre, et on n'a même pas eu ça.
Bah non. Ah.
Et toi, Romain Nigita, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Moi, je trouve que le seul point positif de ce téléfilm, c'est qu'on fait ce podcast ce soir, et ça m'évite... Ça me donne une bonne excuse pour ne pas regarder l'émission sur Dorothée, sur TF1, que j'ai pas envie de voir. Je trouve cette nostalgie à la con complètement stupide, bref.
Si on peut te servir au moins à ça, ça me fait plaisir.
Il y a une réplique, moi, tout de suite, qui m'a fait tiquer dans le téléfilm et qui m'a dit « résume tout le projet ». À un moment, il y a Georgiou qui dit à Garrett que tout critiquer ne permet pas d'avancer. Du genre « mais arrête de râler, ça sert à rien ». Ce téléfilm, c'est pareil. On est tous là en train de comprendre pourquoi c'est absolument à chier, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas envie... c'est clairement... Et c'est un téléfilm qui a été écrit contre nous. Le personnage de Garrett, justement, qui vient de Starfleet, ça représente les fans de Star Trek qu'on est. Et tout le monde lui dit « mais arrête de nous faire chier, nous, on est là pour s'amuser, embrasse le chaos, etc. » Mais en gros, c'est un gros « fuck you ». À tout ce qu'on aime dans Star Trek, c'est ton vieux Star Trek à l'ancienne, c'est nul, viens t'éclater avec nous, sauf que on s'éclate dans la fange, grosso modo. Mais le pire, c'est que malgré toutes les absurdités, tout ce qui fonctionne pas dans toute la... Je l'ai vu d'un coup, hein. Moi je l'ai vu en une seule fois le téléfilm.
Waouh, bravo.
Toute la première moitié, en fait, tout ce qui... Parce qu'en plus, c'est quasiment divisé en trois épisodes avec des titres et tout. Enfin, c'est complètement absurde. T'as l'impression de voir une ancienne production de Queen Martin avec acte 1, acte 2, comme Les Envahisseurs, Les Incorruptibles, etc. Je dirais que toute la première moitié, même si elle est complètement stupide, elle s'enchaîne assez vite. Tu t'ennuies presque pas, même si tu râles, parce que c'est complètement stupide. Mais une fois que t'arrives sur cette deuxième partie, sur la planète, avec l'histoire de la taupe, là, pour de bon, tu t'emmerdes. Au-delà du fait que c'est idiot et qu'on te prend pour un con, tu te fais chier, il se passe plus rien. Ça devient là vraiment ultra cheap, parce qu'en plus, tu te rends compte qu'ils ont tourné la même carrière dans laquelle ils ont tourné le flashback du début. Enfin, on a juste changé de filtre, grosso modo. Et même là, tu t'amuses même pas, parce que le combat, en effet, le grand combat dans la station, dans la première moitié, on va sûrement reparler après, il est idiot, il est moche, etc.
Non.
Mais tu t'ennuies pas trop, tout s'enchaîne pas mal. Et en plein milieu, pouf, il se passe plus rien. Et toute la deuxième moitié, tu regardes ta montre, au-delà même de râler parce que c'est grotesque, juste tu t'ennuies.
Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, moi je me suis ennuyé dès le début. Hein. Et en fait, si tu veux, et d'ailleurs j'étais même cringé dès les premières secondes parce qu'on nous parle de destin. Alors ça déjà, ça...
Oui, ça je suis le noté aussi. Secondes, ouais. Ça, et quelqu'un d'autre en reparle, le boss du commando redit à Georgiou, il faut que tu viennes avec nous parce que c'est ton destin. Et on en a parlé longuement quand on a fait le podcast sur le film de 2009, donc à Metz en Moselle. Voilà, le destin, c'est pas... Là pour de bon, ils ont pas compris Star Trek, encore une fois.
Bah, ils sont allés chercher les citations grecques de Eschyle et Eschyle, je sais plus comment on dit, sur le destin et la vengeance des enfants, d'Agamemnon au reste. Bref, c'est une...
Et je pense que cette partie ennui, elle est un truc que tu as signalé, Guigui, mais sur lequel je pense qu'il faut revenir. C'est que, en effet, c'était un projet de série qui a été reconditionné en un projet de film. On a d'ailleurs plutôt connu l'inverse ces dernières années. Disney avait beaucoup reconditionné des projets de films en projets de série, hein, dans l'univers Marvel et même dans l'univers Star Wars. Obi-Wan, ça devait être un film, c'est devenu une série. Et ça se sentait. Mais là, les mecs, en fait, et c'était pas bien, et ça se sentait, c'était pas bien.
C'était nul à chier. C'était pas bien.
Les mecs ont, ils ont même pas recréé une ligne, en fait. Si bien que t'as vraiment l'impression de voir un pilote de série qui est par ailleurs raté. Mais le rythme n'est pas bon parce que c'est un rythme de pilote de série, en fait, avec des très longues introductions, des enjeux qui ne sont pas tellement intéressants, finalement, parce que la série se lance, finalement, à la fin. On voit bien la fin. Même, il y a un truc de fou à la fin. Ils refont revenir le Vulcain robot en disant « Ah ouais, mais alors je suis la femme de l'autre et tout, machin.
Ouais, »
Mais ça,
ouais,
c'est un pur twist de série. Ouais. Quoi. Enfin, c'est vraiment bien un sûr truc de série. Moi, ça m'a rappelé, quand j'étais plus jeune, quand j'ai rencontré Romain Nigita, Alain Carazé organisait des screenings, en fait. C'était vraiment, il reproduisait les pilotes qu'on
les
recevait.
Premium TV.
Voilà, c'était
super.
En fait, à une époque à Los Angeles, à la même époque de l'année, on projetait plein de pilotes pour que les chaînes étrangères puissent les acheter. Mais il y en a qui étaient annulés avant même que la série ait eu le temps d'être achetée. Et là, t'as l'impression de voir ça, quoi. T'as l'impression de voir un pilote complètement foireux, comme le pilote de Wonder Woman, si ça vous parle, ou
je l'ai vu.
Ou le téléfilm Nick Fury.
Exactement, le film Nick Fury, etc.
Avec
ou, dans une certaine mesure, un autre pilote qui est resté masqué pendant des années, les Lone Gunman, qui sont chers au cœur de Guigui, évidemment, de X-Files. Et t'as cette impression-là aussi, t'as l'impression de voir un pilote foutraque qui n'aurait jamais passé, en effet, les exécutifs d'un studio il y a 25-30 ans, quoi, si tu veux. Quoi. Et ils n'ont rien changé. C'est-à-dire, vraiment, peut-être le combat final n'aurait pas eu lieu aussi rapidement si... C'est le seul moment où tu te dis ils accélèrent un peu, si tu veux, qui est nul, d'ailleurs, le combat final. En plus, le méchant n'a vraiment aucun charisme, le pauvre. C'est tragique. Mais tout est écrit comme un pilote de série.
Moi, je suis de l'avis qu'ils n'ont rien changé parce que sinon, ils auraient enlevé des trucs. Parce qu'il y a des trucs qui sont là pour placer du background de personnages pour plus tard, genre les guerres eugéniques. Le mec qui revient à la fin, enfin le personnage qui revient à la fin, du coup sa femme, c'est vraiment là pour nous faire un arc de saison de il va la traquer, quoi. Enfin, elle va le traquer. Et on a même le personnage de Starfleet, il a un peu un nouveau statut enfin, il a une nouvelle façon de voir les choses. Vraiment, c'est juste. Enfin, il y a plein de trucs qu'ils auraient pu les enlever, du coup, pour alléger, pour rajouter d'autres choses, plus peut-être des meilleurs dialogues, peut-être. Mais non, c'est resté tel quel. Je pense qu'ils ont vraiment rien changé, en effet.
Ouais, Jamie Lee Curtis, à la fin...
Et le budget lui-même, qui est clairement un budget de pilote de série, quoi. Enfin, tu sens que c'est cheapos à mort, quoi.
Ce que disent Kurtzman et donc Craig Sweeney, donc le scénariste, dans une interview qu'ils ont donnée à TrekCore, qui devait sûrement être un truc genre tapis rouge pour l'avant-première aux États-Unis, ils disent qu'ils avaient grosso modo quasiment écrit en effet toute la première saison et qu'ils ont quand même utilisé des éléments des épisodes suivants qu'ils ont remis du coup dans ce téléfilm. Ils disent que notamment le personnage de Dadano, donc le mec qui trafiquant d'armes, c'était normalement le bad guy de l'épisode 3. Ils ont utilisé des éléments de l'épisode 7.
Donc ça se trouve, c'était la fin de saison, l'invasion du
probablement, ouais, le troisième acte du téléfilm, en fait, ouais, c'était probablement okay. La dernière saison. Donc en gros, ils ont compressé très maladroitement l'arc de toute la saison.
Donc c'est même pas juste un pilote, c'est vraiment... Ouais, c'est mal écrit. Vous rendez compte qu'on n'a même pas encore débattu sur l'utilisation d'un chéron, je sais pas comment ça s'appelle en français, un chéron ou je sais pas, alors qu'ils sont censés être tous éteints. Le mec qui bosse pour elle dans son espèce de bar là, qui vient
le côté blanc côté noir.
Ah oui,
avec moitié blanc moitié noir.
Oui, moitié blanc, voilà, c'est
ils
ça.
Sont censés avoir disparu, c'est con. Et c'était tout le but, enfin toute l'idée de l'épisode en fait. C'est-à-dire que s'ils sont pas morts, l'épisode il a plus de sens final. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait.
Parce qu'ils sont du
tu le sais pas, Marie-Paul, mais dans la série originale.
Ils ont feuilleté l'encyclopédia et ils ont dit oh tiens, lui il a une tête rigolote, on va la mettre, ça fera plaisir aux fans.
Parce que ouais, Marie-Paul, dans la série originale, il y a un épisode en saison 3 qui oppose un membre de cette espèce avec un autre qui est pas exactement pareil. Il y en a qui ont le côté gauche blanc du visage et le côté droite noir, et les autres c'est l'inverse. Du coup, ils sont racistes les uns avec les autres, c'est une métaphore du racisme assez basique. Et à la fin, le truc, c'est qu'ils sont les deux derniers survivants de leurs espèces respectives et qu'ils continuent à se battre jusqu'à la mort, quoi. Donc ils sont censés avoir disparu. C'est le... C'était la note finale de l'épisode. Et bah non. Non, non, il y en a un qui est là, dans le bar, tranquille.
Ouais, bah s'il y avait que ça, hein.
Ouais, mais c'est...
Mais oui, t'as raison, ça...
Du fanservice gratuit, à la rigueur, ça m'énerve, mais c'est nul. Et, mais c'est pas grave. Là, c'est même pas du fanservice, c'est... Ça entache... l'héritage de ce qui est venu avant. Ça diminue l'importance de ce qui est venu avant, en fait.
Pour moi, non, parce que, en fait, ce téléfilm n'existe pas. Voilà, j'ai décidé de l'oublier. Pour moi, Section 31, c'est un projet avorté, et ça restera comme ça.
Pourquoi ils n'ont pas supprimé ça pour raison fiscale, comme tout le monde, sur des films qu'on aurait voulu d'habitude.
Il y a aussi la pauvre meuf, Delta, la meuf de Star Trek 1, là aussi, qui est là pour se faire pour se faire.
Oui, c'est aussi, ça c'est une ref à Motion Picture, du coup. Parce qu'on les a vus que là-dedans, quasiment, je pense. Peut-être que même là-dedans.
Ouais, et puis qui se fait tuer, ouais, bon.
Pour avoir des remarques graveleuses comme ça, des trucs comme ça.
Super. Ouais. Bon, et puis il y a Jamie Lee Curtis qui fait un petit caméo à la fin, donc pour faire comme si effectivement il y aurait une suite, quoi. C'est oui, ça marche pas du tout, c'est vraiment super gênant.
Mais sauf qu'on n'en veut pas de la suite.
Ouais, on n'en veut pas de la suite, assez clair, hein.
Mais là, ça a été assez unanimement mal reçu à travers le monde. D'un coup, enfin, tout le monde a dit non, mais en fait non, quoi.
Ouais, il y a pas d'apologie, c'est même pas une question de vision, c'est nul. Hein. C'est un peu comme Rebel Moon pour le coup. C'est nul, c'est objectif. Bon, on peut discuter de plein de trucs, mais là, c'est objectivement nul, c'est indéfendable. Enfin, pour moi, c'est indéfendable.
Ouais, ça a unifié tout le monde, au moins, c'est bien.
L'unification, la fameuse unification.
On peut parler d'un autre truc absurde, juste deux minutes, parce que je sais pas si ça vous a fait bondir vous aussi, mais la fameuse baston, donc avec leur gadget qui leur permet de passer à travers les murs et compagnie. On est d'accord que...
Oh là là, oh là là.
Elle doit passer à travers le sol, elle doit tomber.
Ah non, mais ça n'a fait... N'en parlons pas.
J'ai complètement décroché, moi, de ce moment-là, donc j'ai même pas regardé.
Ça m'a rendu fou, ce truc. Et puis, à un moment, donc, il y a sa jambe qui est coincée dans le mur, et puis le plan d'après, non, une fois que la bagarre est terminée, il n'y a plus de problème, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était comme ça.
Ça n'a aucun sens.
Enfin, non, moi, il y a vraiment rien qui va, de toute façon, dans tout ce truc. En fait, je crois que c'est le pire truc qui a été produit en live-action, et pour moi,
sur
ça
Star
rejoint,
Trek.
Du coup, les... ouais, de Star
ouais.
Trek.
Ouais.
Et pour moi,
action,
ça rejoint
ouais.
les very short Trek, parce que même dans les épisodes cringe qu'on a eu dans Strange New Worlds, dans des trucs qui étaient ratés, ou même dans des trucs qu'on n'aime pas de Discovery ou de Picard, il y a toujours moins un truc.
Je suis surprise à me dire que les scénaristes de Discovery me manquaient, tu vois, parce qu'ils poussaient certains trop curseurs dans un sens, mais ils avaient une direction, ils avaient quelque
exactement.
Chose.
Exactement, au moins ils avaient une direction, ouais. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai que même, tu vois, même dans le pire épisode de Picard, t'as au moins une scène qui peut t'intéresser, t'as au moins peut-être un personnage, t'as au moins un truc. Là, il y a rien, quoi. Il n'y a pas une seconde de truc réussi, en fait. C'est vraiment tragique. Je
si, alors
pas.
Si, le maquillage de Giorgio, c'est très bien. J'étais éblouie.
Ok.
Alors, le maquillage de Giorgio ou de Véronique Dufranc?
Non, de Giorgio.
D'accord. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que t'as l'impression que elle, Michelle Yeoh, elle s'éclate. C'est le seul truc qui fait un peu plaisir à voir. T'as l'impression vraiment qu'elle s'éclate.
Je sais pas.
Qu'est... Tu ah bah, crois enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. T'as l'impression que c'est la seule qui a envie
c'était
d'être
pas incroyable.
Mais c'est tellement
j'sais
mauvais
pas
que
sûrement,
t'es triste
mais...
pour elle, quoi.
Bah, on est triste pour tous, en fait. Hein.
Moi, franchement, ça me fait mal pour le casting. Parce que je sais que... Bah, comment il s'appelle le caméléoïde Sam Richardson. C'est plutôt un bon acteur. Bah, Michelle Yeoh, il y en a plein.
Il n'y a personne de vraiment mauvais niveau acting dans le casting. J'ai trouvé que tout le monde tu vois, faisait son taf. C'est juste qu'ils étaient mal dirigés ou ils avaient
mais
des
oui.
rôles nuls.
C'est ça. Et puis il y a plein d'acteurs qui ont joué dans des nanars et c'est pas grave, ça arrive. Quoi.
Ouais, non. Après, je trouve que c'est pas l'acting le problème. Hein. Franchement, c'est juste qu'ils n'avaient pas grand chose à jouer. Mais,
non, mais même les dialogues qu'ils avaient à dire les rendaient. Enfin, ils pouvaient rien faire, quoi. C'était ça, le trashman, là, celui qui se promène avec une armure, on dirait une poubelle. C'était vraiment, pour moi, j'avais vraiment mal pour lui parce que tout ce qu'il disait, c'était con comme la lune.
Et ouais, il a toujours des rôles comme ça, lui. Hein.
C'est vrai?
Ah ouais, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Hein.
Les scènes où ils se disputent aussi au début, là, comme dans tous les films d'Ensemble Cast, gna gna gna, et ça chipote, et l'autre qui est complètement, le Vulcain qui est complètement excitos là et tout. Mais c'est, t'en as rien à foutre de ces personnages, t'as même pas envie de les entendre et ils sont là à se disputer. Mais tu te dis putain, mais c'est nul, mais qu'est-ce que c'est mauvais quoi. Oh là là.
Mais justement, Marie-Paul, là, il y a une minute, vient de lâcher le terme, elle a parlé de nanar en parlant de la carrière de certains acteurs. Est-ce que pour vous, ce Section 31, c'est un nanar ou un navet?
Un navet.
Un navet.
Un navet,
un navet.
Ouais. Parce que t'as aucun plaisir devant. Aucun, vraiment.
Ouais, c'est un navet parce que... parce que t'as pas le côté drôle des productions de moi Nanar, je pense à ce que j'ai vu dans le cadre de Nanar,
les répliques nulles te font rire là, ça,
voilà,
y a rien
c'est
qui
ça
fait rire,
enfin, où vraiment tu rentres dans un truc qui est tellement enfin voilà, là Rebel Moon c'est pareil hein. c'est pas un Nanar pour moi, c'est un navet,
c'est nul à chier aussi
à
Rebel
chier,
Moon
quoi. T'as rien à sauver. Et voilà, non, c'est pas un nanar. Tu vois, si on reste dans l'univers de Snyder, comment les meufs qui se battent dans un espèce de jeu vidéo.
Sucker Punch,
c'est un nanar. Pour moi, ça pourrait être un bon nanar, tu vois ce que je veux dire?
Moi, j'aime bien Sucker Punch. Il y a une vibe, c'est un univers, quoi.
Ou les sœurs Wachowski, moi, j'aime bien ce film en plus, mais pour moi, c'est un nanar. Speed Racer. Je pensais à Speed Racer. Oui, ou Jupiter.
Ascending, ouais.
Jupiter Ascending, mais je pensais plutôt à Speed Racer, qui pour moi est un nanar, si tu veux. Là, non, t'as même pas envie de... Tu vois, si on se retrouve entre potes, c'est ça, si on se retrouve entre potes, on va pas le mettre en fond pour rigoler, tu vois ce que je veux dire, ça nous fera pas rigoler en fait.
Alors que les mystères de l'amour, ça peut marcher.
Bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, allons vite regarder Nico sur TF1.
Je vois même pas
TF1
ce que c'est,
ce soir.
Bon, bah moi je sais pas vous, mais moi je pense que j'en ai assez parlé.
Ouais, je pense qu'il y a pas grand-chose d'autre à dire de toute façon.
Ouais, on a fait le tour.
Moi ça m'a fait revoir Star Trek Into Darkness à la hausse, c'est déjà ça.
Clairement.
Oui,
non, mais c'est vrai. Pareil.
Et même Star Trek 5.
Mais oui, non mais carrément en fait, même Nemesis, j'en parlais sur le Discord, je sais plus avec qui tout à l'heure.
Ouais, même Nemesis c'est bien
à côté. Pas pousser, non plus.
Ah si, quand même, si.
On n'est pas très loin avec
Nemesis. Nemesis c'est mieux que ça. Nemesis c'est
mieux.
Non,
c'est mieux.
Vous êtes malade.
Mais oui, attends, dans Nemesis, t'as
où
la musique de Jerry Goldsmith,
t'as des scènes,
t'as des scènes qui sont sympas.
Un truc que j'ai essayé sur lequel j'ai essayé de me concentrer quelques minutes, c'est la musique. Je me dis bon, la musique, peut-être
musique,
que c'est atroce. Déjà, ça commence par les notes des Dents de la Mer. Tu fais mais what?
Non,
après,
alors c'est pas les notes. Oui,
non,
on t'a pas
mais
répondu.
Ça
les
ressemble
notes de Star Trek First Contact en fait. Et en fait, c'est le thème des
bon.
Borg.
Exactement.
Mais alors, la
ça
question
évoque
est...
ça quand tu connais pas quoi.
Mais la question est. Pourquoi le thème des Borg? Parce que c'est vraiment le thème des Borg. Il a été très bien utilisé dans la saison 3 de Picard, où en effet, c'était vraiment la musique que tu associes à la Reine des Borg. Donc là, en effet, faire un hommage, c'était presque évident. T'as quelques thèmes comme ça qui sont connus dans Star Trek. T'as le thème des Klingons, pour ceux qui connaissent. Et t'as le thème des Borg. C'est du Goldsmith, hein, les deux. Donc c'est quand même du haut niveau de musicalité. Mais là.
Là,
c'est
même
complètement
pas
random en fait. C'est comme à la fin, ils te remettent le thème iconique de Star Trek.
Oui, un moment bizarre.
Alors,
pareil, rien à voir. Enfin, tu comprends même pas ce que ça vient foutre là, si tu veux.
Bah, c'est pour te dire, ça y est, il y a de la cohésion d'équipe, ça y est.
Ah, mais ça serait comme.
C'est Jeff Russo à la musique.
C'est vrai?
Non,
quoi. C'est fou.
Je me pose une question, parce que moi, il y a un autre truc qui m'a perturbé, et techniquement, ça se rapporte au Borg de Via Discovery, où on avait théorisé tout ça, mais le fait qu'elle s'appelle Control à la fin, Jamie Lee Curtis, ça m'a perturbé.
Puis,
qu'elle ait une semi-interface, une interface semi-Borg...
Ouais, un peu comme Seven of Nine, elle a des implants, ouais.
Exactement.
Et puis Control, c'était bien le méchant dans...
De la saison 2 de Discovery.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis même l'autre, là, celui avec son armure, c'est quasiment un proto-Borg.
Un Borg, ouais. Ouais,
c'est un cyborg, ouais.
Mais
ça n'a aucun sens.
Le fait qu'elle s'appelle Control avec ses implants et que la saison 2, elle insistait vachement sur le fait que c'était peut-être l'origine des Borg, Control, ça m'a... Je sais pas. Peut-être qu'il y avait un plan sur le long terme avec ça.
D'ailleurs, on l'a pas suffisamment dit, mais bon, déjà, tu fais une série film, whatever, qui est censée être un ensemble cast. Donc, en effet, tu penses à Mission Impossible, tu penses à des trucs comme ça. Le droïde, c'est une catastrophe. Le Vulcain, c'est une catastrophe. Enfin, la
Star
meuf, ils la bousillent au bout de deux secondes. Mais elle commençait très mal, les deux secondes qu'elle a eues. Enfin, c'est totalement raté. Même ce qu'on appelle une Bible, quand tu commences une série, même la Bible est ratée. C'est-à-dire, chaque personnage individuellement est naze, en fait, si tu veux, quoi. Et Georgiou, pour finir, je suis désolé, non, c'est inacceptable. Le fait qu'elle ait cette repentance et tout, machin. Mais la repentance, tu peux l'accepter.
Tu es toute sa famille.
Tu peux l'accepter pour un personnage qui a commis un crime ou deux crimes, ou tu vois, ou machin. Mais là, la meuf, elle a tué des milliards de personnes. Enfin, je veux dire, c'est faudrait quand même voir une série avec Adolf Hitler qui dit, ouais, j'ai quand même pas été très cool avec les juifs, là maintenant quand même je vais rejoindre la CIA et je vais aider les... Mais enfin, C'est incroyable. Les choix de cette série sont incroyables.
Surtout que son opposant, son antagoniste, lui dit « Ok, l'Empire Terrien, c'est la merde, etc. Mais toi, en plus, t'as choisi d'être la pire de toutes. » Alors que t'étais pas obligé, quoi. Donc c'est vrai que ça va loin, malgré
tout. Et ça, on l'avait déjà dit à l'époque de Disco. Hein. On l'avait déjà dit à l'époque de Disco, pour le coup. Excuse-moi, Romain, je t'avais coupé.
Non, mais déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Giorgio. Même si dans Disco, t'avais plus ou moins un arc, mais qui est remis à zéro au début de ce téléfilm, donc ça n'a plus aucun sens. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que, après toutes les critiques qu'on vient de dire, finalement, le seul point positif dans tout ça, c'est que, en fait, quand tu regardes le générique de début, bah, quand il y a marqué section 31, il n'y a pas marqué Star Trek.
Ouais,
donc tu peux te dire non, c'est pas dans ma franchise. Bon, il y a le coup de jingle au début, mais on va l'oublier.
C'est ce que je me dis sur Enterprise aussi. Ça a remonté Enterprise dans mon estime aussi, en vrai. J'ai pensé Enterprise des fois, je me suis dit non, il y avait au moins Enterprise, il y avait des trucs avec les Andoriens, la création de la Fédération, tout ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Là, il y a rien.
Ah, c'est vrai. Là, c'est vraiment le pire truc. Et de loin, quoi. Ça va être un trou noir, en fait.
Vous imaginez... Bah oui, en plus, ils sont en noir. Vous imaginez quand même les personnes qui regardent cette daube et qui n'ont jamais vu Star Trek et qui...
J'espère qu'il y en a pas.
Disent, s'ils espèrent recruter des gens avec ça, mais au secours, quoi.
Vous imaginez les personnes qui ont dû organiser le tapis rouge hier et sourire aux gens qui arrivaient. Genre, vous allez aimer, vous allez voir, vous allez aimer, c'est bien.
Les podcastereuses, là, de Girafe, là, je viens de voir qu'ils sont en route pour aller à encore un nouveau tapis rouge, je sais pas où. Girafe, qui disait qu'elle l'a vu trois fois, mais bravo, franchement, je vous envoie une médaille, je sais pas
c'est
de quoi,
clair.
Mais...
C'est clair, elle aurait dissocié...
elle l'a vu trois fois, mais parce qu'elle a aimé ou...
Non, je pense pour le.
Parce qu'elle est invitée en tapis rouge, tu y vas.
Enfin, moi,
c'est l'Amérique, c'est pas la
même
France.
Même en tapis rouge, j'aurais pas vu le film.
Oui, mais, quoi, c'est, mais c'est pas l'orga de Paris, c'est l'orga
ouais,
de
c'est
là-bas.
Pas,
quoi.
C'est pas. Je comprends.
Ils sont obligés d'y aller, quoi.
Mais on va dire que pour, je pense, les relations publiques, et etc., c'est ce genre de choses, c'est un peu important, quoi.
Anyway.
Mais bravo.
Et sinon, on a aussi une petite capsule de Yasmine qui voulait nous dire quelque chose.
Captain, incoming message.
Je viens tout juste de finir le film. Et comment dire ? Waouh. Ouais, bah... Putain, j'ai clairement pas assez bu d'alcool. Voilà, c'était très mauvais. J'ai un peu de peine pour Michel Liot. Et ouais. Vraiment merdique. Voilà, film de merde. Programme
complete. On va passer à la partie la plus intéressante du podcast, les promos ou recos. On va commencer par Marina, je pense, même si elle nous a donné pas mal de recos déjà.
Alors moi, j'ai envie de citer David, qui est un auditeur du Quadropop, avec qui j'ai discuté cette semaine. J'ai envie de mettre en lumière un de nos fans. Et voilà, donc David, je te salue. Je te remercie de nous écouter. On a discuté cette semaine de section 31, de l'attente qu'on avait. Voilà, et donc j'ai hâte de voir ton avis sur les commentaires de ce podcast. Donc j'espère que voilà, tu m'entends. Je sais que tu nous écoutes régulièrement et que tu es à jour. Donc moi, c'était ni promo ni reco, c'est donner la voix à notre public.
Eh ben, ça fait plaisir, c'est gentil, Marina. Et coucou, David. Et toi, Manu ?
Bah écoute, moi, à la base, j'avais choisi une recommandation facile, mais j'ai vu dans ton conducteur que c'était ta reco. Du coup, j'ai développé une addiction récente pour Marvel Rivals. Et j'aime beaucoup jouer en groupe à Marvel Rivals, parce que je n'irai jamais jouer seul, parce que me retrouver dans un groupe de gens qui jouent ensemble et je ne suis pas avec eux, ça ne m'intéresse pas. Du coup, voilà, je vous recommande Marvel Rivals, comme ça, vous pourrez jouer avec moi. Envoyez-moi des messages quand vous êtes dispo, et puis on peut aller se faire une petite partie.
Alors comment ça se joue ? Ça se joue avec une console, un ordinateur ?
Bah c'est c'est sur toutes les consoles. Je sais pas si c'est sur Switch, mais c'est sur les grosses consoles ou sur Steam. C'est gratuit et c'est un pour les gens qui ne connaissent pas, c'est globalement Overwatch avec un skin Marvel et c'est hyper bien. Voilà. Alors si vous voulez jouer avec moi, vous ne jouerez pas Scarlet Switch parce que je ne joue
évidemment
qu'uniquement Scarlet Switch. Mais venez.
Ok, c'est noté. Et toi, Marie-Paul ?
Alors, j'ai deux promos qui sont rapides. J'ai participé à un spoiler récemment avec Guillaume et César sur le Doctor Who de Noël de Stephen Moffat.
Alors, est-ce que quelqu'un l'avait aimé dans ce podcast ?
Spoiler, il faudra écouter le podcast pour le savoir. Donc ça devrait sortir incessamment sous peu. Et je fais mon auto-promo comme d'hab. Cette semaine est sortie ma dernière traduction qui est Anzuelo de Marios 404 graphique et qui est une merveille graphique, poétique, fantastique. Comme disent la plupart des gens, assez exigeante à rentrer dedans, mais qui est vraiment super beau. Donc au moins feuilleter l'album parce que elle a fait un boulot somptueux à l'aquarelle.
C'est ce que tu m'avais envoyé à un moment, on est d'accord. Et Marios.
Oui.
C'est son bouquin. Ouais.
Oui, c'est celui-là.
C'est bien, je conseille.
Et toi, Romain Igita?
Moi, ça sera une reco d'un roman qui est sorti il y a quelques mois, qui est sorti fin octobre dernier aux États-Unis. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de traduction. Donc, amis éditeurs, éditrices, on vous attend là-dessus. C'est Scenes from a Memory de Peter Aurulian. Et si le titre vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que c'est l'adaptation en roman du concept album du groupe Dream Theater. Donc, leur meilleur album qui est sorti il y a 25 ans pile. Et c'est du fantastique puisque c'est une histoire de réincarnation, d'hypnose. Ça se passe sur deux époques, ça se passe de nos jours et ça se passe pendant la prohibition et ça développe vachement l'univers de l'album qui était déjà absolument formidable. Et là où c'est étonnant que ça soit une réussite, c'est que ce même Peter Aurulian avait déjà adapté l'autre concept album du groupe Dream Theater, cet album qui s'appelait The Astonishing, et sauf que The Astonishing, l'album était à chier, donc le roman était à chier. mais dans le cadre de Scenes from Memory, c'est vraiment une belle réussite. Donc voilà, si vous aimez le groupe ou même si vous n'aimez pas le groupe, hein, y a vraiment pas besoin de connaître l'album en question pour lire ce roman. C'est un truc qui se lit bien, qui se lit vite. Et voilà, que moi je vous recommande chaudement, sachant que moi j'adore ce groupe.
Ok, super. Et toi, Romain Brami?
Moi, je vous conseille un jeu vidéo aussi, puisque Manu a ouvert la voie. Je vous conseille un jeu vidéo japonais qui s'appelle Unicorn Overlord. Ça ne parle pas de licorne, contrairement à ce que son nom indique, mais c'est une sorte de tactical RPG très très traditionnel japonaise, avec tout ce qu'on aime dans les tactical RPG japonais. On le trouve vraiment pas cher en ce moment, et il a été élu jeu de l'année par pas mal de passionnés du Japon. En particulier, et ça sera ma deuxième reco, les gens du podcast Sumimasen Turbo, qui est le meilleur podcast sur la culture japonaise, et en particulier jeux vidéo, par les anciens de Gaijin Da. Chez vous, ça vous parle. Donc voilà, Unicorn Overlord, achetez-le, vous passerez un très bon moment, vous pouvez vous jouer avec vos enfants, c'est vraiment le jeu parfait. Sur Switch, entre autres.
Eh ben super, alors moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est l'album Icelander de Caril Ferré et Corentin Rouge, tout simplement parce que c'est ma chérie qui a fait la couleur. Et c'est un super bouquin d'anticipation chez Glénat. En fait, avec le réchauffement climatique, c'est la merde partout. Un des seuls endroits encore cool sur Terre, c'est l'Islande. Et donc maintenant, nous sommes, nous autres, Européens et autres, des réfugiés climatiques et qui essayons de rentrer en Islande. Donc,
en Islande?
En Islande.
Ah ouais, ça va pas accueillir tout le monde.
Ah, exactement, donc c'est un bouquin qui est assez... C'est dur, qui est assez chouette et qui est très très intéressant. Icelander. Donc,
c'est avec Christophe Lambert, non?
Avec Christophe Lambert. Putain, il m'a volé ma blague.
Mais c'est avec Caril Ferré, mais c'est un... Il a écrit des romans, Caril Ferré, non?
Bah, et là, il a écrit donc une BD.
Puisque t'as fait la blague avec Christophe Lambert, moi je vais dire avec Adrien Paul, tiens.
Et sinon, mon autre reco, c'est Sévrance, hein, saison 2 qui a commencé sur Apple TV, c'est absolument génial.
C'était ça ma reco facile.
En parlant de production ultra compliquée, Sévrance 2, pour le coup, ça a été le cas, c'est bien, alors.
Dites pas...
On en a qu'un, deux de sortie pour l'instant, le premier je l'ai vu, pas le deuxième, mais c'est bien.
Au lieu de regarder Section 31, j'ai commencé par regarder, bien sûr, l'épisode de Sévrance, parce que c'était... j'ai commencé Section 31, c'était trop dur, j'ai arrêté, j'ai regardé Sévrance, et là, c'était quand même... Mon rythme cardiaque a un peu baissé, et je me suis senti un peu mieux. Et bien sûr, comme Marie-Paul, j'ai fait un podcast sur le sujet, donc sur la saison 2 de Sévrance, c'est chez Spoilers, et on refera un podcast à mi-saison, et encore un autre podcast pour faire le bilan de la saison 2, donc ça sera sur les latitudes de Bonus Tracks avec Spoilers.
Moi, je ferais juste une remarque comment de Spoilers, vous m'invitez jamais, bande de bâtards.
Mais attends, il a dit que justement il ouvrait de plus en plus et qu'il allait inviter tout le monde au fur et à mesure.
Et d'ailleurs, la semaine prochaine, sinon, je serai au Festival Fantastique de Gérard Mer, justement pour faire un petit podcast reportage sur le festival, mais aussi, bien sûr, évidemment, pour profiter des films en compétition et autres joyeusetés qui seront là-bas. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous venez. Et puis, sinon, en podcast du Coin Pop, on se retrouve le 23 février pour parler de la saison 10 de X-Files avec Manu, Mehdi et Mara.
Ah oui, et moi, je serai à Angoulême la semaine prochaine, si jamais vous êtes dans le coin aussi, faites signe.
Voilà, et comme ça, si vous voulez partager vos PTSD de Section 31 avec nous, voilà, on se prendra un petit café, ça va bien se passer. En tout cas, donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Au revoir tout le monde.
Salut.
Et à bientôt, salut.
À écouter le podcast Shitlist de la team Shitlist, dont fait partie Manu d'ailleurs. Coucou, et on les remercie de nous avoir autorisé à utiliser leur générique pour déconner, juste pour déconner, juste comme ça, parce que ça fait plaisir. Programme complete.